Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. C'est désormais un rendez-vous habituel, l'entretien avec le député de notre circonscription, Ludovic Mendès. Cette fois-ci, nous aborderons l'attentat qui s'est déroulé dimanche dernier en Australie, les débats parlementaires autour des projets de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, avec notamment l'accord passé entre le gouvernement et le Parti socialiste au sujet de la réforme des retraites, les interventions de Ludovic Mendès à la commission des lois autour de la laïcité mais aussi l'automatisation du renouvellement des titres de séjour, les différentes visites de ministres ces dernières semaines, Françoise Gatel, la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, mais aussi Benjamin Haddad, à propos de la commission franco-luxembourgeoise, et l'actualité autour des prochaines municipales à Metz.
Monsieur le député, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant. Avant de commencer sur votre actualité de parlementaire, un mot peut-être sur les événements qui se sont déroulés en Australie hier.
Bonjour Christophe, alors on va commencer par quelque chose de négatif parce que on a connu un atroce attentat qui visait la communauté juive hier en Australie avec malheureusement un Français décédé et un Français blessé. Je crois que malheureusement partout dans le monde aujourd'hui c'est un peu compliqué, les actes antisémites sont en train d'exploser. Quand je dis actes antisémites, c'est pas simplement les insultes et les menaces, c'est vraiment des actes qui ressemblent à des pogroms. Je veux dire, hier ça ressemble un peu à ce qui s'est passé malheureusement le 7 octobre en Israël, avec des personnes qui faisaient simplement la fête et qui ont été pris pour cible et tués simplement parce qu'elles sont juives. Et ça, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. C'est un des combats qui m'importe, de lutter contre les discriminations, toute forme de discrimination d'ailleurs, racisme, homophobie, antisémitisme. Et c'est assez inquiétant pour l'avenir et je crois qu'on a un vrai travail de fond à mener pour essayer de faire en sorte que nos sociétés soit plus équitable, plus juste, mais surtout qu'on apprenne à nouveau à vivre ensemble.
Dans cette tragédie, juste une petite lueur qui n'est pas trop relayée d'ailleurs par les médias, c'est un musulman qui a arrêté les terroristes.
C'est pas une histoire de religion, c'est un homme qui a pris son courage à deux mains et pour avoir vu l'image, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qu'il a fait est exceptionnel. C'est un acte de bravoure, d'héroïsme monumental. Je veux dire, beaucoup d'entre nous n'auraient pas la force et le courage de pouvoir le faire. Et ce qu'a fait cette personne va au-delà de sa nationalité, de son origine, de sa religion. Ce qu'il a fait est exceptionnel, de vouloir protéger un maximum de monde. Et lui-même n'est pas rentré dans la barbarie parce qu'on le voit avec l'arme à la main et n'ose pas tirer sur la personne qui, pourtant, elle, tire pour tuer des gens. Et il a pris 2 balles. Donc ça veut dire qu'il a sauvé des gens. Et lui-même s'est mis en danger. Et cet acte de bravoure et d'héroïsme, aujourd'hui, je crois qu'on doit tous le reconnaître à la hauteur qu'il est. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est un acte surhumain.
Et un acte d'humanité aussi.
D'humanité, mais donc surhumain directement, parce que aujourd'hui, je crois que dans ces moments-là, c'est assez compliqué. On l'a vécu dans d'autres moments, mais ce n'est pas un responsable des forces de l'ordre, ce n'est pas un militaire. C'est un citoyen lambda qui a pris son courage à deux mains et qui a voulu sauver des gens. Et rien que pour ça, je crois qu'on doit lui tirer notre chapeau et le féliciter, je crois qu'il reçoit des félicitations du monde entier, et c'est mérité.
On va complètement changer de sujet, mais il est important quand même de revenir sur ce fait d'actualité. L'actualité parlementaire, ce sont les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un fait politique inédit, vous avez dit dans les médias.
Ah, inédit dans le sens où, sous la 5e République, quand on n'a pas de majorité. Alors déjà, le fait de ne pas avoir de majorité sous la 5e République, c'est inédit. Parce que c'est arrivé qu'en 2022 et là en 2024 après la dissolution. Et ce qui est inédit, c'est qu'on a des membres de la majorité et des membres de l'opposition capables de trouver un compromis, d'avancer ensemble et de voter. Et d'avoir des débats qui ont été longs, qui ont été usants et fatigants, mais qui ont été de qualité. Ça veut dire que pour une fois, on n'était pas dans l'invective et simplement dans la doctrine ou dans le dogme politique, mais on était dans la volonté de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir avancer. Alors certes, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que globalement, la masse des Français s'y retrouveront. Il y a des personnes qui partiront du principe qu'elles vont participer un peu plus que les autres. Mais on ne peut pas dire que ce budget n'est pas équilibré, qu'il n'est pas équitable et qu'il n'est pas juste. Du moins, en tout cas, pour la partie PLFSS, donc financement de la sécurité sociale. Maintenant, on attend le retour du Sénat sur la partie finances classiques, mais qui devrait être logiquement aussi équilibré.
On y viendra juste après. Vous avez également dit aussi que les extrêmes s'étaient unis pour voter contre le projet. Le fait d'appeler LFI extrême, c'est alors que c'est le Conseil d'État qui a dit que le LFI n'était pas interdit.
Ça reste la gauche radicale, donc c'est une forme d'extrémisme. Le Conseil d'État part du principe que le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, et dit que la France insoumise, c'est la gauche radicale. Donc la gauche radicale, quand on est radical, on est aussi des extrêmes. Il y a une extrême gauche. Quand on parle des extrêmes, c'est toutes ces personnes, la manière dont elles se comportent, les mots qui sont utilisés. Puis je crois que si on demande aujourd'hui à la majorité des Français ce qu'ils en pensent, ils diront tous l'extrême gauche. La réalité, c'est qu'ils ont des méthodes parfois qui sont plus proches des mouvements anarchistes et révolutionnaires que de mouvements dits gouvernementaux et responsables. Je dis pas que tout le monde est dans cette logique-là, mais on l'a vu à plusieurs reprises avec plusieurs députés de la France Insoumise. Et après, oui, la réalité, c'est que moi, je considère qu'aujourd'hui, la France Insoumise est une forme d'extrême gauche. C'est une gauche radicale. Et quand on dit gauche radicale, pour beaucoup d'entre nous, on comprend extrême.
Pourtant, la véritable extrême gauche n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, que je sache.
Pour autant. Après, c'est un débat et on laissera peut-être le Conseil d'État revenir sur sa position prochainement.
Parlons de la loi sur la retraite, donc, qui est gelée. C'était vraiment un geste, une main tendue vers le Parti Socialiste, uniquement, pour qu'il puisse voter après.
Ça faisait partie des discussions dans le compromis entre le gouvernement et le Parti Socialiste. Et potentiellement quelques écolos et quelques communistes. Mais la réalité, c'est que chacun dit, si vous voulez qu'on fasse un pas vers vous, il faut que vous fassiez un pas vers nous. Et pour nous, c'est la réforme des retraites. Qui, je pense, est un faux combat et un mauvais combat. D'ailleurs, je crois que pour beaucoup de Français, tout le monde était passé à autre chose. Mais on a tenu notre deal. Nous, on a poussé au vote pour que ça puisse passer. Maintenant, à partir de là, le compromis, c'est chacun avance ses pions. Ce n'est pas la compromission. Il n'est pas totalement annulé, il est décalé. Et ça permet de reposer un débat de société, un débat national pour les prochaines élections présidentielles qui arrivent en 2027. Et on sera obligé de parler de retraite, on sera obligé de parler de notre financement, du système de retraite, de notre système social, de parler des impôts, de la sécurité, de l'immigration, de toutes ces thématiques-là. Vu qu'on n'a pas de majorité en l'État et qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour les Français, pour nos entreprises et pour l'administration, il fallait qu'on trouve une solution. La solution, c'est le compromis. Et ça rassure aussi, je crois, beaucoup d'entre nous. Quand je dis nous, c'est nous les Français, hein, pas simplement nous les politiques. Ça nous rassure aussi de se dire que on est encore capable dans ce pays de pouvoir dialoguer et de trouver des chemins qui rassemblent et pas simplement qui nous permettent de nous désunir et de nous taper dessus.
Si j'ose dire, pour les partis du centre, pour les groupes du centre, c'est un coup double. C'est à la fois, ça permet de faire passer ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour l'instant on en est là, et en même temps de continuer à scinder l'NFP.
Alors nous, on n'a aucune volonté de scinder l'NFP. Je crois que la France Insoumise et le Parti Socialiste ont peu besoin du bloc central ou du gouvernement pour ça. Ça fait un moment qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et puis je crois que quand on est socialiste et qu'on se fait traiter de représentants de l'extrême droite, je vois pas quelles sont les proximités qu'on peut encore avoir avec ses alliés de la France Insoumise. Plus certains propos en lien avec l'antisémitisme d'ailleurs, certains propos presque racistes, la manière dont ils se comportent. Tout le monde avait acté la fin du nouveau Front Populaire. Maintenant, on verra ce que font les deux autres partis. Parce qu'il n'y a pas simplement le Parti Socialiste et la France Insoumise, il y a aussi les écologistes, il y a aussi le Parti Communiste qui, l'un comme l'autre, parfois penche d'un côté, puis penche de l'autre. Et on verra ce que ça donne dans le temps. Mais ce n'est pas notre volonté. Nous, on n'a pas la volonté de fracturer qui que ce soit. Comme on peut voir, et on n'en parle pas assez, une forme d'union des droites qui se met en place avec des votes LR qui sont censés être dans la majorité et dans ce socle commun et qui votent parfois plus avec le Rassemblement national qu'avec le Bloc central.
J'ai pas dit que c'était...
Non, mais moi,
j'ai pas dit que c'était une volonté, c'est juste
moi, comme ça,
que ça quoi.
Ça me permet de remettre aussi les choses au clair et de rappeler que, pour nous, on essaie de tenir une ligne politique, de trouver une solution au compromis et que tout le monde ne joue pas toujours le jeu non plus. Et que parfois, il y a des moments où, oui, j'ai dit que le RN et les FI votaient la même chose et c'est public, hein, donc là-dessus, je peux pas... Je te montre que je ne triche pas. Mais il est vrai aussi qu'on a de plus en plus de proximité entre les Républicains, qui sont un parti très important dans le département, parce que je rappelle que beaucoup de grands élus départementaux sont issus des Républicains, et qu'ils sont de plus en plus proches aujourd'hui du Rassemblement National que du Bloc Central que nous représentons.
Vous avez déjà évoqué tout à l'heure le PLF, le projet de loi de finances. qui passe cette semaine au Sénat. Vous êtes confiant? Quel regard vous portez sur les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale?
Des débats longs et qui n'ont pas été au bout, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'amendements, avec une forme d'obstruction menée par la France insoumise. Des incompréhensions parfois avec des personnes qui nous expliquent celles qu'elles leur ont évoquées, qui sont contre l'assistanat soi-disant dans notre pays, mais veulent dégeler l'ensemble des accompagnements sociaux, qu'il faut absolument qu'on retraille la dette, mais on ne veut pas travailler sur l'abattement fiscal des retraités, geler au moins pour une année la revalorisation des retraites, au moins des grandes retraites, je veux dire les petites retraites qu'on accompagne les personnes les plus en difficulté, les plus fragilisés, les plus paupérisés. Ça paraît logique et je crois que personne ne dira le contraire. Mais pas l'ensemble des retraités. Quelqu'un qui va gagner 300 euros de plus l'année prochaine par mois, c'est pas le cas de tous les travailleurs. Et c'est le travailleur qui paye aujourd'hui les retraites des retraités. Donc il y a un débat de fond qui est en train de se poser dans notre société avec des personnes qui ont des totems, qui ont des lignes rouges, qui ont du mal à faire des pas. Après, il faut regarder ligne par ligne parce qu'il y a des choses qui peuvent mettre en danger certains systèmes innovants, même sur notre territoire. On a un sénateur LR qui propose, avec le soutien de M. Husson, le rapporteur général du budget, de supprimer tous les financements de laboratoires de recherche reconnus par l'État, comme ici à Metz Technopole, l'IRT, en contrepartie de financer l'aviation civile. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le combat qu'on doit mener, d'une part. Et deuxièmement, on a besoin de ces laboratoires de recherche pour la défense, pour l'industrie, parce que c'est là qu'on fabrique les nouveaux matériaux de ce qui va servir à fabriquer nos véhicules, nos modes de transport, demain dans nos maisons. Et si on n'a pas ces chercheurs-là, ces ingénieurs, on n'a pas de capacité pour l'industrie de pouvoir inventer les nouveaux matériaux. Et il ne faudra pas s'étonner que demain la Chine passe devant nous sur tous les sujets.
C'est une des raisons pour laquelle vous avez rendu visite
C'est une raison pour laquelle j'étais présent sur place, parce que j'étais alerté par la direction générale et par plusieurs représentants des services, et que moi j'ai écrit au Premier ministre et à différents ministres pour leur dire ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser ces situations se mettre en place. On ne parle pas en plus d'un montant très important, on parle de 400 millions d'euros à l'année. Et pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, ils récupèrent, je sais pas, 2 euros de la part d'un industriel et l'État met 1 euro complémentaire parce qu'on est sur de la recherche. Et quand on fait de la recherche comme on l'a fait là, la recherche appliquée, adaptée, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce n'est pas rentable comme quand on lance une usine. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que grâce à ces recherches-là depuis plus de 10 ans, on a créé des nouvelles usines, des nouveaux emplois, des nouveaux matériaux. On allège le poids de nos voitures, on fait un ensemble de choses. Donc c'est d'un point de vue industriel important, d'un point de vue économique hyper important et d'un point de vue écologique encore plus. Donc on a besoin de les maintenir. Et 400 millions d'euros sur un budget de l'État, je crois que c'est pas grand-chose. Et je demande à nos sénateurs mosellans d'être à la hauteur et de voter contre.
Le projet de loi de finances passe en commission mixte paritaire vendredi. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est la commission mixte paritaire? Parce que ça peut être un peu abscon pour beaucoup.
Ça l'est pour beaucoup, et je crois que le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je me permets, j'en profite, parce que vous avez votre micro qui est tendu, mais quand on reçoit des notifications de nos différentes applications de médias qui nous expliquent que les parlementaires ont voté tel ou tel article, ce n'est pas parce qu'il est voté qu'il est appliqué. J'ai beaucoup de gens qui sont interloqués parfois, on me dit « oui, vous avez voté ça ». Non, mais... Parfois, c'est voté dans l'hémicycle, c'est voté à l'Assemblée nationale, mais c'est pas encore voté au Sénat. Et le texte lui-même n'est pas encore totalement, définitivement voté, et donc appliqué. Et c'est assez dur parfois
d'écrire. Il faut un décret d'application.
Et il faut décret. Parfois, malheureusement, c'est le cas, par exemple, de la retraite des pompiers, un texte qui a été voté largement par l'Assemblée nationale, et malheureusement, on n'a toujours pas les décrets d'application. Donc parfois, en fait, ça s'applique jamais. Et ce qui nous pose problème, d'ailleurs, parce que quand on fait la loi, on aimerait que ce qui est voté à l'Assemblée nationale, parce que c'est fait au nom du peuple français, soit appliqué et respecté. Alors, la commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui se retrouvent dans une salle et qui débattent du texte concerné, là, le projet de loi de finances, et doivent trouver un accord. Ça veut dire qu'on fait article par article, sachant que des fois dans les textes, et surtout au niveau du PLF, il y a beaucoup d'articles, et on échange pour se trouver un accord. Et l'idée de la CMP, si elle est conclusive, ce qui veut dire que l'Assemblée et le Sénat se sont mis d'accord, il y a une majorité pour le faire. Une fois que c'est conclusif, on représente à nouveau les deux textes issus de la CMP en hémicycle pour voter définitivement ce texte. Et une fois qu'il est définitivement voté, l'État s'engage à prendre les décrets. Si elle n'est pas conclusive, le texte retourne à l'Assemblée nationale, on repart de zéro, on rediscute de tout ce qu'on a discuté, il retourne au Sénat encore une fois. S'il n'y a toujours pas d'accord sur la CMP, la dernière et ultime lecture, c'est l'Assemblée nationale qui l'a, et c'est elle qui décide in fine sur l'avenir du texte. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors ça peut prendre beaucoup de temps. Moi j'ai fait des CMP qui durent 15 minutes, j'en ai fait d'autres qui ont duré 5 heures, et là je pense qu'elle va durer au moins 2 jours. Ce qui veut dire que s'il y a accord de CMP ce week-end, il est possible qu'on siège mardi 23 décembre. Ce qui n'était pas prévu.
Parmi ces 7 députés et 7 sénateurs, tous les groupes sont représentés ?
Ça dépend du poids de votre groupe. Et maintenant, vu qu'on est 11 groupes maintenant à l'Assemblée nationale, tous les groupes ne sont pas représentés. La majorité du Sénat qui est LR aura, je ne sais pas, 3 sénateurs. Nous aurons peut-être 3 issus du bloc central et du bloc majoritaire. Et après, les oppositions sont représentées aussi. Vous avez toujours un député représentant et un député suppléant, au cas où, si besoin, pour le suppléer en cas d'absence. Parce que parfois, malheureusement, on peut être aussi appelé à faire autre chose à ce moment-là, ou avoir un autre problème, que ce soit de santé ou autre. Mais globalement, tout le monde est représenté, sauf en ce moment à l'Assemblée, parce qu'il n'y a que 7 places, il y a 11 groupes politiques, donc ce n'est pas possible.
Merci pour cet éclaircissement, mais c'est ce que vous faites déjà quasiment au quotidien sur vos réseaux sociaux. Vous faites toujours des posts didactiques. Alors, j'en ai vu récemment justement pour expliquer la différence entre le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances.
Mais en fait, j'essaie d'être de plus en plus, explicite et de démontrer le fonctionnement de l'écriture de la loi. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la façon dont on fonctionne, et il y a beaucoup aussi de méconnaissances. Et c'est important de rappeler, parce qu'on n'est pas toujours aidé. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois on a des médias qui ne nous aident pas, on a des partis politiques qui ne nous aident pas. Mais personnellement, je pense que c'est important de rappeler les choses, d'expliquer ce qu'est le fondement en fait, des lois que nous votons, à quoi sert le PLF, le projet de loi de finances, à quoi sert le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à quoi sert aussi les différents textes que nous avons au fur et à mesure du temps. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment où je parle de la laïcité et du particularisme d'Alsace-Moselle. Mais si j'en parle autant, c'est parce que c'est important aussi de démontrer que il y a des connaissances que nous on peut avoir que les autres n'ont pas, et que les autres peuvent avoir que nous n'aurons pas non plus. Donc j'y tiens, c'est une forme de pédagogie parlementaire. Beaucoup trop d'habitants, on est plus de 100 000 habitants dans la circonscription, et que je suis limité en termes de visite de l'Assemblée, mais c'est là qu'on apprend vraiment le fonctionnement. Et parce qu'on est dans un moment où, je vous le dis, moi j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions, ils me disent on comprend pas comment ça fonctionne, on comprend pas pourquoi vous avez voté comme ça, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi là vous avez pas été présent. Et c'est parfois compliqué d'expliquer tout ça. Et quand on me dit oui, mais je comprends pas, je vous ai vu à Bruxelles, du moins ou à Genève, et vous étiez censé être dans l'hémicycle. Ben oui, mais si j'étais à Genève, c'était pour représenter la France, représenter l'Assemblée nationale. Et pendant que je suis à Genève, j'ai de la chance, c'est qu'on puisse voter pour moi. Donc c'est parfois compliqué de réussir à expliquer que le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, ben il passe pas la majorité de son temps dans l'hémicycle. L'hémicycle, c'est la séance publique. Mais pendant qu'on a des séances publiques, on a des commissions, on a des sous-commissions, on a des réunions de travail, on a des réunions à côté. Et puis un parlementaire, ça n'est pas simplement l'Assemblée nationale. C'est aussi représentant dans différents groupes, des groupes de travail, des groupes en lien avec des administrations. Vous êtes des fois dans des conseils d'administration importants de structures de l'État. On est aussi représentant sur notre territoire. Je rappelle qu'on a des choses importantes. On a des réunions avec les préfets. On s'occupe du milieu associatif. On fait énormément de choses, du moins. On a des réunions qui préparent tout ça, et donc je ne peux pas être en permanence partout, et sans compter le contexte international qui nous prend aussi du temps, parce que moi je préside des groupes d'amitié par exemple, il y a des travaux en ce moment sur les Balkans au niveau de l'Union Européenne, étant président du groupe d'amitié sur la France et l'Albanie, bah, je suis sollicité et on me demande d'intervenir, et vous avez des réunions de travail aussi directes avec les cabinets ministériels, et puis parfois vous avez des ministres qui se déplacent, comme là dernièrement Françoise Gatel. Et pendant que Françoise Gatel, je suis avec elle ici, je ne peux pas être à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est un ensemble de petites thématiques comme ça, mais je pense que c'est important. Et on est dans une période où il y a tellement d'incompréhension, si on ne peut pas participer à faire comprendre les choses simplement et facilement pour l'ensemble des personnes que l'on peut toucher, alors je pense que notre boulot ne sert pas à grand-chose. Parce que voter, c'est bien, mais expliquer ce qu'on vote, comment on le vote et pourquoi on le vote, c'est un peu mieux.
Ce travail d'explication est important parce que, justement, l'absentéisme visible dans l'hémicycle, beaucoup s'en servent pour surfer sur la vague du populisme, actuellement.
Oui, et puis parce que certains préfèrent se dire on va s'enfermer, comme le fait Marine Le Pen en ce moment, à l'Assemblée nationale. Mais dès qu'ils peuvent, ils ne sont pas présents non plus. Mais c'est le problème, c'est qu'on fait croire des choses. Le problème, c'est la méconnaissance réelle de ce qu'est un parlementaire, de ce qu'est un élu aussi. Parce que votre conseil départemental, le conseil régional ou le conseil municipal, c'est pareil. Il fait énormément de choses et bon, on ne sait pas toujours. Moi, je sais que je faisais des immersions, je prenais des gens pour qu'ils m'accompagnent à Paris ou quand on a des stagiaires. Quand ils repartent, à chaque fois, ils me disent la même chose. Je ne pouvais pas imaginer ça. Ah bah oui, je vous rassure, même moi qui connaissais une bonne partie de la fonction de député, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de missions, autant de choses en même temps, parce qu'on a l'impression que c'est en décalé. Et d'ailleurs, le règlement de l'Assemblée est en train d'évoluer parce qu'on se rend compte que c'est plus possible de tenir comme on le faisait avant. Et puis je crois qu'on est dans une période où on est un peu plus surveillé que des parlementaires ont pu l'être il y a 10, 15 ou 20 ans. Et c'est important aussi. Moi, j'aime rendre des comptes. J'ai toujours été... je pense honnête, direct, franc et sincère là-dessus. Et quand je dois expliquer pourquoi j'ai voté pour, pourquoi j'ai voté contre, pourquoi je me suis abstenu, je l'ai toujours fait. Et puis ça participe au débat de société.
Vous avez évoqué une vidéo récente où l'on vous voit, c'est à la commission des lois. Il y a deux vidéos d'ailleurs. Il y en a une où vous parlez justement du droit local et du concordat.
Oui.
Plus précisément, c'était peut-être lié au concordat d'ailleurs.
Alors, plus précisément, c'était... On débattait d'une proposition de Jérôme Guedj du Parti Socialiste de créer un défenseur de la laïcité. Et dans le texte qu'il proposait, je rappelle que c'est une modification quand même qui est constitutionnelle, hein, c'est pas un simple texte de loi. On a eu un débat et je lui ai rappelé qu'il y a des particularismes en France. D'abord, on est mosellan, donc on va dire d'abord l'Alsace et la Moselle, avec une application de la loi 1905 qui s'applique sans s'appliquer parce qu'on a une particularité, c'est qu'on finance une partie des cultes, sauf le culte musulman, du moins quand on dit qu'on finance un établissement public cultuel qui existe, qui est financé par une partie de nos impôts et la dotation de l'État, que le président de la République, avec le Vatican, nomme l'évêque de Metz ou l'archevêque de Strasbourg, que dans les Outre-mer, il y a un texte particulier qui s'applique aussi avec un concordat en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion et à Mayotte, donc avec des spécificités territoriales, et qu'on ne pouvait pas généraliser la proposition qui était faite par Jérôme Guedj et qu'il fallait qu'on puisse garantir dans ce texte que le droit alsacien-mosellan ne serait pas touché, concerné et revu négativement par rapport à ce texte-là. Donc j'ai expliqué nos particularités et puis le deuxième texte qui était proposé aussi.
Je vous interromps. Même au sein du Concordat, même au sein de l'Alsace-Lorraine, il y a des disparités aussi puisque toutes les religions ne sont pas financées.
Alors, il y a des disparités, oui, parce qu'à l'époque, on partait du principe que le culte musulman n'était pas un culte qui était reconnu sur le territoire. Voilà. Dans les textes, je rappelle que c'est quand même une application d'une loi allemande qui s'appliquait pendant l'annexion et qu'à ce moment-là, le culte musulman n'était pas concerné. Donc on a les catholiques, les protestants, les orthodoxes et les juifs qui sont concernés par ce texte-là. Mais il y a des spécificités quand même. Les communes peuvent financer une partie des cultes, peuvent accompagner les cultes, chose qu'on n'a pas dans la France de l'intérieur, comme on dit. On a une spécificité sur les débats en lien avec la religion. On fait des cérémonies religieuses dans nos départements qu'on ne fait pas dans les autres départements de France. Et que même si moi je m'attache à la stricte application de la laïcité, ce qui veut dire que quand j'ai mon écharpe et que je suis parlementaire, je ne vais pas dans une église, dans une mosquée ou dans une synagogue, sauf si c'est œcuménique et républicain, et quand ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. C'est une cérémonie purement religieuse, j'applique la loi de 1905, parce qu'elle s'applique aussi. Je rappelle qu'ici, pour tout le monde, l'État est l'État, et donc il est... neutre en termes de religion, il ne choisit pas non plus la religion, il n'impose pas non plus de religion, mais on a des particularités qui s'appliquent. Et donc c'est un débat qui est intéressant, parce que même dans nos territoires d'Alsace-Moselle, il y a des gens qui sont contre le concordat et qui aimeraient pouvoir le faire arrêter. On sait que certains partis politiques de gauche ont cette logique-là, on sait que le Parti Socialiste l'a proposé à plusieurs reprises aussi. Moi j'essaie juste de rappeler à Jérôme Guedj que sa proposition était intelligente et intéressante parce que je crois qu'aujourd'hui les débats sur la laïcité dans notre pays démontrent qu'on a besoin de la faire respecter correctement et de faire respecter ses règles d'application, mais on partait du principe que la défenseur des droits qui applique déjà en lien, du moins, qui applique déjà la défense de la laïcité et des droits en lien avec la laïcité, pouvait être la personne idoine pour le faire. Et pas besoin de créer un nouveau défenseur de la laïcité reconnu par la Constitution. On peut juste élargir les droits potentiels que possède déjà la défenseur des droits.
Je suppose que ce débat, ce n'était pas un hasard si c'est déroulé au moment où on fête le 120e anniversaire de la loi de 1905.
Non, parce que Jérôme Guedj voulait en profiter à ce moment-là, et je le dis honnêtement, c'est tout à son honneur, et lui qui a été victime d'ailleurs d'insultes et de propos antisémites, rappelle aussi pourquoi c'est un défenseur de la laïcité. Moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'avait pas écrit, sauf Alsace-Moselle, sur une partie de son texte-là, et que sa charte n'était pas applicable chez nous. Et puis, c'est une incompréhension. Je veux dire, moi, j'aurais aimé, je devais participer la semaine dernière à l'Assemblée. Non, justement, je devais être membre du jury de la reconstitution des débats sur la laïcité par des jeunes étudiants. Je n'ai pas pu y aller pour des raisons médicales. Mais c'est des débats qui m'animent énormément. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. J'étais rapporteur pour le gouvernement, pour le Premier ministre à l'époque, Jean Castex, d'une mission sur les actes anti-religieux, sur la haine religieuse. Je me suis beaucoup investi sur ces thématiques-là, donc c'est des sujets que je connais plutôt bien. Et on a la chance dans notre territoire d'être sur un territoire de concorde. On parle de concordat, mais on parle aussi de concorde, où les religions se parlent, travaillent ensemble. Et on a pu faire œuvrer en termes d'évolution de financement, d'accompagnement sur l'ensemble du territoire grâce à ces missions. Donc moi, c'est des sujets qui m'animent, qui sont hyper importants pour l'éveil de chacun, mais j'adore écouter les politiques parler de la laïcité. Quand on m'explique que le voile à l'université devrait être interdit alors que ce n'est pas l'application de la laïcité, et que quand on applique la laïcité, on doit avoir des aumôniers religieux dans nos universités, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de débats, et pour une fois, on avait un débat qui était plutôt politique, qui n'était pas simplement philosophique sur l'application de la laïcité, mais sur comment garantir l'application de la laïcité, comment garantir que chacun puisse être reconnu dans son droit.
Et justement, dans ce cadre-là, il y a une chouette expo didactique qui est inaugurée à l'Institut régional d'administration à Metz.
À Lira.
Vendredi. À Lira,
ouais. La semaine dernière.
C'était vendredi, ouais.
Je sais parce que le ministre Amiel devait venir et on n'a pas pu le faire. Et il viendra potentiellement prochainement.
On revient sur la commission des lois. Donc, votre deuxième intervention, c'était sur un débat sur l'harmonisation du renouvellement des titres de séjour.
Alors, c'est pas l'harmonisation, c'est l'automatisation du renouvellement des titres de séjour de longue durée, qui paraît être une idée intelligente et intéressante, à nouveau portée par le Parti Socialiste. En fait, on débattait de leur texte dans ce qu'on appelle la niche politique du Parti Socialiste qui est intervenue jeudi dernier en hémicycle. L'idée est plutôt bonne de se dire oui, on peut aller plus vite, on peut renouveler les titres de séjour de personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, dont les enfants sont scolarisés, et dont il n'y a pas de problème. Sauf que c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça. C'est aussi simple, je pense qu'on l'aurait déjà mis en place, et aujourd'hui il faut quand même continuer à prouver, comme quand on habite toujours dans le pays, quand on fait des études, qu'on fait ses études, qu'on travaille toujours, parce que la situation peut changer du jour au lendemain. En fait, la proposition qui avait été faite, c'était pour désengorger les préfectures. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a des retards dans certaines préfectures, dont la préfecture de la Moselle, qui sont très importants. Malgré la volonté, et la bonne volonté, et la très bonne volonté des agents préfectoraux, parfois c'est assez compliqué, parce qu'il y a des demandes et que c'est territorialisé. Mais dans le fond...
Je vous interromps, et après, les retards accumulés peuvent donner lieu à des OQTF.
Donnent lieu à des OQTF, donc nous on intervient beaucoup. Moi je crois que ma collaboratrice Nadia, qui est juste à côté, elle doit faire 4 ou 5 mails par jour sur ces thématiques, par jour. Parce qu'on a des problèmes de retard, de personnes qui n'ont pas leur récépissé, qui permet de garantir comme quoi qu'ils ne sont pas sans papier. Et on se retrouve avec des gens qui, malheureusement, au bout de 2 mois, se retrouvent avec une OQTF, alors qu'elles sont là depuis 20 ans et qu'elles n'ont rien demandé à personne, qu'elles travaillent, leurs enfants sont scolarisés, elles payent leurs impôts, elles sont très bien intégrées et n'ont jamais fait parler d'elles. Donc voilà, il y a des problématiques administratives qui se mettent en place. En général, on arrive à les soulever, mais du moins à les traiter et à faire en sorte qu'elles soient abandonnées. Le problème, c'est tout le stress que ça comporte. Mais en même temps, et c'est ce que j'expliquais à la rapporteure socialiste, c'est que nous, quand on renouvelle notre passeport ou notre pièce d'identité, c'est pas automatique. Il faut aller en mairie, faire des démarches, il faut rappeler qu'on habite à telle adresse, justifier son adresse, justifier si besoin son acte de naissance et les anciens papiers. Et donc, il est normal qu'on ne fasse pas un renouvellement d'un titre de séjour aussi facilement qu'une automatisation, parce qu'il faut redonner des nouvelles pièces et il faut vérifier la situation. Et c'est la même chose quand on refait nos papiers d'identité dits classiques pour les personnes de nationalité française.
Ou on renouvelle nos photos également.
Oui, mais on renouvelle tout, parce qu'on évolue et qu'on change tous. Mais Le débat s'est tourné, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le fond, on est en phase, sur la forme, ça ne peut pas fonctionner, et qu'on a un problème de procédure, et qu'on peut peut-être faire autrement. Moi, j'arrive pas à me dire qu'aujourd'hui, en 2000, bientôt 2026, dans notre pays qui est la France, avec tous les systèmes numérisés que nous avons dans toutes les administrations, on n'est pas en capacité d'envoyer les bonnes informations à la préfecture pour aller beaucoup plus vite que demander à quelqu'un de déposer un dossier avec 100 pages. Je crois qu'on est capable d'avoir les si elle est déclarée, et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut simplifier la procédure pour des séjours de longue durée de personnes qui sont déjà là depuis un certain temps. Et quand on a une carte pluriannuelle de résident en France, logiquement, on n'est pas censé poser problème et on n'a pas de problème. Alors qu'on ait durci, nous, les conditions, ça paraît logique, surtout après les différentes attaques et les faits divers graves qu'il y a eu dans notre pays. Mais pour autant, je ne crois pas qu'on peut jeter, on doit jeter l'opprobre sur l'ensemble des personnes étrangères, ce qui a été malheureusement fait par le Rassemblement national, ce qu'on voit ma vidéo à moi. Mais si vous regardez l'ensemble des débats, je peux vous assurer que c'était assez piquant.
D'accord. Vous l'avez évoqué également tout à l'heure dans vos propos, vous étiez présent pour la visite de la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel. Qu'est-ce que vous avez retenu des débats qui étaient très intéressants avec les élus locaux? On avait des sénateurs, on avait donc des députés, et on avait également des maires et des présidents d'agglomération.
Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un débat sur les territoires. Surtout qu'on est sur un territoire particulier avec le côté transfrontalier, avec un droit local, avec des choses qui sont un peu particulières. Un territoire qui, dans le Grand Est, est un peu à part. On est deux départements de plus d'un million d'habitants, les autres sont inférieurs. Nous, on ne perd pas de population, mais on a des particularismes aussi qu'on doit valoriser. Un territoire où il y en a très peu en France, comme peut-être la Bretagne, où les autoroutes sont gratuites. Il y a un ensemble de sujets qui fait que ça a des impacts. Après, moi, je suis toujours dubitatif, c'est-à-dire qu'il y a une libre administration des collectivités et des administrations publiques, mais en même temps, je ne suis pas certain qu'on doive donner tous les pouvoirs aux élus locaux, parce que ça crée des concurrences entre territoires, et je ne suis pas certain qu'il faut de la concurrence entre les territoires, au contraire, et parce qu'on ne sait jamais ce que l'élu peut en faire. Et quand on regarde dans la presse à droite à gauche, c'est pas l'ensemble des élus, mais on a des élus qui se comportent pas toujours correctement, pas toujours très bien. Et moi, je pense qu'on doit protéger la population. Donc, donner des droits complémentaires, décentraliser des moyens de l'État sur les territoires parce qu'on en a besoin, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas à n'importe comment. Et après, il y a l'histoire de compensation financière. C'est-à-dire que quand on donne des moyens complémentaires, il faut qu'on puisse financer ces moyens complémentaires. Ce n'est pas toujours le cas. Donc soit on trouve des solutions en faisant des économies d'un côté, soit l'État compense d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, l'État compense tout. Même si parfois on entend certains élus nous expliquer qu'à cause du social, ils n'ont plus d'argent dans les caisses du département, c'est plus compliqué que ça, parce que l'État compense tout à l'euro près. Pareil pour les collectivités, quand elles n'ont plus touché la taxe d'habitation, l'État a compensé à l'euro près, et aucune collectivité ne peut dire l'inverse. Sauf qu'après, c'est le choix politique de la manière dont on dépense l'argent qui fait que derrière, il y a un débat, mais c'est toujours compliqué d'expliquer qu'on a fait un choix qui coûte cher et qui n'apporterait peut-être pas des réponses à tout le monde, que d'expliquer, et donc on explique que c'est la faute de l'État parce que vous comprenez, il nous demande trop de trucs et il veut pas payer, que vraiment de faire les choses soi-même avec honnêteté en expliquant j'ai fait un choix, mon choix il est celui-ci, voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là, ça coûte tant, il va falloir le supporter. C'est dur d'aller voir ces citoyens d'expliquer ça, mais pourtant c'est une réalité de toute la classe politique et de tous les élus aujourd'hui de notre département ou du territoire national. Mais c'était intéressant dans le sens où quoi qu'il arrive, quand on a des ministres qui se déplacent sur le territoire pour échanger, ça apporte des plus et ça permet aussi de raconter notre histoire à nous, la nôtre, celle de la Moselle qui est particulière, qui n'est pas la même qu'ailleurs, qui a des élus parfois qui sont très âgés, qui sont là depuis très longtemps, un territoire qui n'a pas arrêté de changer, d'innover, de se bousculer. Pour apporter autre chose, je veux dire l'industrie, une bonne partie de l'industrie que nous avons connue il y a 50 ans n'existe plus dans notre pays, elle existe encore moins sur notre territoire. Tout ça, ça a des impacts, puisqu'on fait des choix, on essaie de trouver des solutions, on se réinvente, et puis on est quand même le carrefour de l'Europe. Et ça, faut pas l'oublier. Et tout ça, ça a des impacts chez nous. Et comme juste après, je pense qu'on en parlera la semaine d'après, le jeudi d'après, j'ai accompagné le ministre Haddad, ministre délégué aux Affaires européennes au Luxembourg, justement sur ce sujet. Non, mais ça démontre voilà, qu'on a des particularités qu'aucun autre territoire n'a, D'autres l'ont avec la Suisse, d'autres l'ont avec l'Allemagne, d'autres avec l'Italie, d'autres avec l'Espagne. Nous, on a encore d'autres particularités.
Je reviens sur la trentaine d'échanges qu'il y a pu y avoir entre les élus locaux et la ministre. Ce qui a fait consensus, c'est la demande de simplification et de cohérence.
Oui. Mais aujourd'hui, le populisme monte à cause de ça, parce que les gens, on ne comprend plus comment fonctionne notre pays. Quand on me dit « oui, mais je ne comprends pas, on a un train financé par l'État et la SNCF, donc par les deniers publics, qui traverse nos villages, mais il ne s'arrête pas, parce que vous comprenez, ce n'est pas la desserte qui est prévue ben, », personne ne comprend. Un bus qui passe dans votre village, mais qui ne s'arrête pas pour vous emmener, alors qu'il fait le chemin que vous êtes censé faire, ben, personne ne comprend qu'on paye, d'un point de vue public, par nos impôts, et derrière, on n'a pas le service. Et qu'on nous explique que c'est un autre service, d'un autre bus, d'une autre compagnie qui doit venir vous chercher, qui lui décide de travailler que le matin et l'après-midi, parce qu'il n'y a pas assez de monde en journée. Ben ça ne marche plus. Parce qu'en fait, on a la sensation de dilapider l'argent public, d'être dans une forme de gabegie financière. On parlait, par exemple, une maire parlait de ces problématiques de place de parking devant la gare. On a des citoyens qui font l'effort de ne plus prendre leur voiture, de prendre le TER pour aller travailler pour des raisons écologiques ou de coût pour un ensemble de thématiques et la SNCF retire des places de parking. Bah, elle ne comprend pas et je comprends qu'elle ne comprenne pas. Donc c'est un ensemble de thématiques qui ont été abordées par les élus. Alors chaque élu a son combat, a son dada. Il a pu l'exposer à la ministre. Le préfet a beaucoup participé pour rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en cours aussi au niveau départemental. Mais il est certain que ce soit les élus ou les chefs d'entreprise ou n'importe quel citoyen aujourd'hui nous demande de la simplification parce que tout est trop compliqué dans notre pays. Et parfois, vous entendez quelque chose, on vous explique comment ça fonctionne et quand vous regardez dans l'application, ben, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vous a raconté parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de rajouter une touche, une question ou autre qui fait toute la différence. Et donc simplifier les choses permettrait parfois d'aller beaucoup plus vite. On a des procédures administratives qui sont beaucoup trop longues. Alors c'est très bien parce que ça nous protège, c'est un principe de précaution souvent, mais je crois que le principe de précaution ne doit pas pleurer dessus sur le développement de notre pays et parfois c'est ce qui se passe.
Encore une fois, vous avez devancé ma question. Donc, vous avez accompagné Benjamin Haddad, le ministre Benjamin Haddad, la semaine dernière. Il venait pour une commission franco-luxembourgeoise et apparemment, ça fait un flop.
Alors, on a été au Luxembourg en espérant pouvoir avoir quelques petites victoires. Malheureusement, on n'a pas eu ce que nous voulions, donc c'est pas un flop. C'est une négociation de gouvernement à gouvernement. Il n'y en avait pas eu depuis 2 ans, donc je pense que Luxembourg se repose un peu là-dessus. Il explique toujours qu'il est dans son bon droit. Ce qui n'est pas toujours faux, mais on demande à ce qu'on revoie un peu le fonctionnement. Le problème, c'est que tout est un peu archaïque. Chaque État va vouloir défendre son propre territoire, sa propre vision des choses, sa propre...
On peut peut-être rappeler quel était le but de cette commission.
En fait, ce qu'on appelle la CG, donc c'est une commission intergouvernementale entre la France et le Luxembourg. Donc c'est des représentants gouvernementaux qui se parlent. Et il y a des délégations, donc les administrations de l'État, par exemple, la préfecture, la DREAL, pour l'écologie, les transports et la mobilité, les services sociaux, du travail... Et on parle de tous les sujets, même fiscaux. Ouais, on parle de vraiment tous les sujets. Et l'idée, c'est de trouver des compromis qui permettent à nos 125 000 frontaliers qui vont travailler chaque jour au Luxembourg d'avoir une vie de meilleure qualité. Mais surtout, pour nos collectivités aussi, d'avoir des retombées économiques non négligeables parce que ça a un coût. Quand vous avez une population qui se déplace sur un axe, un seul axe par rapport à l'ensemble du territoire, quand vous avez des loyers qui explosent parce qu'en fait les salaires ne sont plus les mêmes entre le Luxembourg et la France, quand il vous faut des crèches complémentaires, quand il vous faut des écoles, quand il faut construire des lotissements, des moyens de transport complémentaires, tout ça c'est un coût pour la collectivité et on ne peut pas les supporter simplement nous avec les impôts, sachant qu'on paye les travailleurs transfrontaliers payent la majorité de leurs impôts au Luxembourg. Donc c'est une manière de trouver des contreparties. Et donc on a parlé de tous ces sujets-là, la mobilité, les crèches, le travail... Le fait que le télétravail n'est pas pris en compte de la même façon en France qu'au Luxembourg et que c'est limité en nombre de jours et qu'on aimerait avoir un peu plus de jours parce que sinon il y a un financement des impôts qui n'est pas le même. Voilà, il y avait un ensemble de sujets et on n'a pas trouvé d'accord. Après, on a d'autres combats qui sont menés par exemple par le président du département ou la région sur un collège franco-luxembourgeois ou sur un lycée franco-luxembourgeois. On est quelques-uns à dire que la majorité des sujets qu'on doit mettre sur la table, c'est plutôt en lien avec la mobilité, le transport, la compensation financière. Et après, on verra pour le reste. Je suis pas certain que le luxembourgeois soit une langue d'avenir. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour nos amis luxembourgeois. Mais il y a d'autres thématiques, je pense, à travailler en amont que celle-ci. Donc c'est un flop parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait et que Luxembourg s'est engagé à une prochaine commission intergouvernementale au début du second semestre l'année prochaine, donc ça veut dire autour du mois de septembre, et avec des garanties sur les financements des crèches, sur des combats communs qu'on va pouvoir mener France et Luxembourg. Et moi je pense qu'on doit faire évoluer aussi le droit européen parce qu'on est sur un territoire qui est particulier. Et on a une bande frontalière qui peut être repensée avec des droits spécifiques et d'obliger à la compensation. Et comme le disait et comme je l'ai dit aussi à Xavier Bettel pendant le déjeuner, qui est l'ancien Premier ministre et vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, au bout d'un moment, si vous ne jouez pas le jeu, la France peut aussi toujours s'amuser à fermer ses frontières. Et je suis pas certain que ça plaise au Luxembourg. Donc on est dans la logique de s'il n'y a pas de dialogue pour avancer, on cherchera des moyens coercitifs. On va rien lâcher en tout cas.
Vous parlez de mobilité, le ministre a pris le TER pour aller au Luxembourg.
Pour revenir du Luxembourg, il faut revenir, ce qu'il est arrivé la veille. Aller au Luxembourg le matin à 8h, c'est un peu compliqué. Et pour avoir fait le trajet aussi, je confirme que c'est bien compliqué. Mais il l'a fait parce qu'il a visité une centrale d'achat juste avant. Et l'idée, c'était qu'il se mette en immersion pour comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai pas pu rester avec lui pour des raisons personnelles. Mais je trouvais très intéressant qu'il le fasse. Et ça s'est d'ailleurs bien passé. Et quand on regarde la vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux, ça démontre tout ce qu'on vient de se dire. Ça veut dire que tout le monde est content d'avoir une relation particulière avec le Luxembourg, mais tout le monde est mécontent de la manière dont ça se passe, parce que aujourd'hui, un travailleur frontalier, parfois, c'est une galère sans nom pour lui, avec des trains qu'on ne comprend pas, qui sont bloqués, qui sont annulés, qui sont où on vous met un bus à la fin, des travaux qui durent éternellement et on ne comprend pas pourquoi ça a pris autant de retard. C'est des thématiques qui sont un peu particulières. Et puis, on est sur un territoire, en tout cas la métropole de Metz, que j'étais censé représenter d'après le ministre Benjamin Haddad, qui est encore différent, parce que nous, maintenant, on a des gens qui arrivent de Paris. Donc, on est dans une concurrence entre ceux qui arrivent de Paris et les autres qui vont travailler au Luxembourg et que nos loyers sont en train d'augmenter, les prix d'achat des immeubles aussi, et qu'on n'a pas toujours la possibilité d'apporter des réponses en termes de crèches, de mobilité et autres. Mais je crois qu'on doit aussi regarder en face nos propres problématiques avec ce problème de décentralisation où aujourd'hui, vous ne pouvez pas, avec un seul ticket de bus, faire Metz-Thionville. C'est juste pas possible. Donc ça pose aussi des questions sur la manière dont nous sommes organisés sur notre territoire et de se dire que aller Metz-Thionville, c'est l'équivalent de l'ensemble du Luxembourg en termes de population, en termes de taille, et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire Metz-Thionville avec un ticket de bus parce que vous changez trois ou quatre fois de réseau de transport et de mobilité et que tout ça n'est pas pris en considération. Donc vous pouvez le faire avec un ticket TER, mais vous ne pouvez pas le faire avec un ticket de bus. Donc ça, ils se servent aussi de nos défauts, de nos problématiques internes, pour pouvoir ne rien faire avancer, en fait.
Alors qu'il y a des exemples avec la France qui existent, et notamment avec la frontière suisse.
Genève. Le Grand Genève, on l'appelle ça, et c'est des accords qui ont été passés. Moi, je l'ai testé il y a aussi quelques semaines en étant à Genève, donc voilà. Mais la réalité, c'est que oui, il y a des possibilités de faire les choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut se servir du droit européen. Il y a des eurodistricts qui existent, il y a pas mal de choses. On peut inventer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je leur ai proposé, et ça a perturbé le ministre Bettel, je leur ai proposé de créer une structure franco-luxembourgeoise qui soit en charge des transports ferroviaires. On a su le faire, par exemple, avec Thalys, pour aller vers la Belgique, Bruxelles. Je rappelle que c'est la SNCF et une entreprise belge. On l'a fait avec Lyria entre les Suisses et les Français. On l'a fait avec Eurostar entre les Anglais et les Français. On peut inventer quelque chose avec les Luxembourgeois, une compagnie des trains. Comme ça, la CFL dira pas c'est la faute de la SNCF et la SNCF dira pas c'est la faute de la CFL. Et quand c'est pas les deux entreprises, on dira que c'est la faute de la région. On peut trouver des solutions et je pense que ça peut fonctionner. Pareil sur l'avenir de la mobilité en voiture où il est censé y avoir des bus mis sur des voies spécifiques sur l'autoroute, qui finance, comment, quelle compagnie, ça va être le même débat. Donc moi je leur ai dit, je vous propose de changer de débat, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose, 15 ans que ça n'avance pas, venez on essaye quelque chose de différent, et on m'a dit, c'est une bonne proposition, mais ça paraît compliqué. Eh bien on verra ce que ça donne.
Vous avez cité la métropole de Metz, maintenant on peut dire Eurométropole, le préfet a donné son accord avec un tiret entre Euro et Métropole.
Il paraît, mais je n'irai pas dans cette polémique et dans ce débat où je pense que c'est pas ce qui anime la majorité des Messins et des habitants de la métropole.
Et concernant les Messins, On est à 3 mois des élections.
Ouais.
Votre regard maintenant sur où vous en êtes, sur le regard que vous portez, sur ce qui se passe, sur les candidats qui se sont révélés.
On en reparlera au mois de janvier. En tout cas, je l'ai toujours dit, je critique pas et je ne parle pas des autres. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 candidats officiellement lancés. Hein, un membre du Rassemblement National, un autre du Parti Socialiste. Après, il y a beaucoup d'échos à droite et à gauche. Il y a des gens qui cherchent l'union mais qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui cherchent la désunion qui sont en train de l'avoir. Et on a encore des choses à écrire. Moi, je vous l'ai dit, je prendrai toute ma part. Maintenant, je ne sais pas encore comment. Et l'année n'est pas terminée. Et moi, j'ai une obligation, c'est de voter un PLF avant la fin de l'année. Et après, on parlera du reste.
Je vous remercie.
Merci à vous.
C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.